gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Il n'a jamais vraiment réfléchi sur ce que, dans les départements d'études littéraires, on appelle l'acte d'écrire. Il se décrit plutôt comme un écrivain moraliste, puisque ses thèmes de réflexion portent sur la morale, sur la nature, sur la condition humaine. Il est aussi obsédé, peut-on dire, par la musique, par l'harmonie, par le rythme de la phrase. Il pense devoir ça aux poètes du passé ainsi qu'aux pionniers du rock. Pour lui, il y a dans le rock'n'roll des années 60 une cadence incroyable. Il n'est pas un demi-temps qui ne soit à sa place. Avec nous, l'écrivain André Pronovo. Est-ce que ce que je viens de vous dire, est-ce que dans la présentation...
Oui, c'est très bien.
J'ai passé une semaine à réfléchir à cela.
C'est très bien.
Vous avez passé une bonne semaine.
Oui, j'ai passé une bonne semaine. Je vous remercie.
Donc, le rythme de l'écriture, le rythme
oui,
de la musique...
Oui, mais oui. Moi quand je me prépare à acheter un livre, là, je l'ouvre là, à n'importe quelle page. Et si le rythme est bon... Je me dis, j'ai le goût de le lire. Mais si le rythme de la phrase n'est pas bon, non, j'achète pas.
En tout cas, le livre que vous nous avez écrit récemment, Elvis et Dolores, oui. À tout le moins a du rythme, parce qu'on parle d'une comédienne qui aurait pu connaître une carrière fantastique. Elle a joué dans deux films avec Elvis Presley. Et pourtant, elle est allée...
Chez les cloîtrés.
Chez les cloîtrés, elle y est depuis maintenant.
Ça fait 50 ans.
50 ans.
Oui, ben oui, en 63. Elle est entrée en 63.
Parce que vous êtes allé la rencontrer, d'ailleurs, elle est dans une abbaye pas tellement loin de Montréal, peut-on dire?
C'est dans le Connecticut. C'est près de la... Comment ça s'appelle? Newton, où il y a eu une fusillade il y a quelque temps, là, vous savez, là?
Oui.
C'est dans la campagne du Connecticut. C'est peut-être à 75 000 au nord de New York.
Et il y a plusieurs moniales qui y résident?
Ils sont 40. Voyons, ça a toujours été autour de 35 et 45 moniales, je pense.
Et elle est prieure, disons.
Elle est prieure. La prieure, ça veut dire c'est la deuxième de la communauté. Je pense que la différence entre la prieure et la supérieure s'occupe plus des affaires à caractère spirituel. La prieure, elle, d'ailleurs, ils ont donné ça à Dolores, c'est la business. Il faut que ça marche une communauté, hein?
Oui,
il faut que les sœurs...
La ministre des Finances.
La ministre des Finances, un peu, oui.
Elle a connu cela à une certaine époque.
Oui, parce qu'à un certain moment dans sa vie, elle a eu beaucoup d'argent. Hein?
Sauf que lorsqu'on entre dans une abbaye comme cloîtrée, on fait vœu de chasteté, de pauvreté également.
Oui, oui.
Alors, je présume que cet argent accumulé dans les années 60, parce qu'il faut dire que lorsqu'on joue aux côtés d'un être comme Elvis Presley...
Elle a gagné beaucoup d'argent.
Elle a sûrement eu de très bons cachets.
Elle a gagné beaucoup d'argent. Elle était là, elle était à Hollywood de 57 à 63, et c'était film après film, hein, avec des grands acteurs. Gagnait beaucoup d'argent.
D'ailleurs, si vous êtes curieux à l'antenne, vous pouvez fouiller sur Internet et vous allez découvrir de nombreuses photos de Dolores Hart, photographiées aussi avec Elvis Presley comme couple, parce qu'on les voit souvent, c'était probablement pour la promotion des deux films.
Quelqu'un juste a tapé Dolores Hart sur Internet et puis il y a des pages qui n'en finissent plus.
Parce que dans Loving You, si ma mémoire est bonne, elle interprétait le rôle de Nellie.
Non, c'est dans King Creole.
King Creole.
Dans Loving You, elle est Suzanne.
Suzanne.
Oui.
Mais l'amoureuse d'Elvis.
Oui, oui. Dans les deux films, elle est l'amoureuse d'Elvis. Et c'est pas facile, hein?
Est-ce que dans votre recherche, vous avez pu comprendre ou est-ce que vous êtes allé chercher pour savoir si un jour Elvis Presley avait eu une idylle avec Dolores Hart ou quelle était l'appréciation qu'avait Elvis à l'égard de cette actrice?
C'est-à-dire qu'Elvis a dit à un certain moment... Il a parlé de Dolores lorsqu'il a appris qu'elle était rentrée au couvent. Il a dit que ça le bouleversait. Et puis, il a dit d'elle très belle chose. C'était une femme extraordinaire. Puis, Dolores, elle, de son côté, évidemment, les journalistes qui l'ont interviewée, parce que même si elle est religieuse cloîtrée ou semi-cloîtrée, comme sont les bénédictines, il y a beaucoup de journalistes, à certains moments, qui ont essayé d'avoir des entrevues avec elle. Et elle en a donné au fil des années. Pas au début, pas dans les premières années, mais depuis 10 ans, elle en a donné plusieurs. Et puis, entre autres choses, parce que elle souffre d'une maladie, un accident qu'elle a eu qui l'a mise un peu faiblesse des jambes, presque une paralysie à certains moments. Et puis, elle dirige une espèce de campagne d'information sur cette maladie-là. Et ça l'a amenée à sortir de la communauté pour aller donner des conférences de temps en temps. Et les journalistes, évidemment, lui demandent qui était Elvis, etc. Toujours les mêmes questions. Hein? Alors, elle dit tout simplement que c'était un jeune homme très bien, qu'elle l'aimait. Elle dit qu'elle le trouvait très beau.
Et très gentil.
Très gentil, ça, c'est sûr. Ça.
Elle n'aura été à tout le moins qu'une étoile filante sur les marquises.
Oui.
Les cow-boys fringants ont leur façon aussi de nous parler de ces étoiles filantes.
Je m'arrête un instant pour te parler de ma vie. Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Je m'arrête un instant pour te parler de la vie. Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit. Et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, d'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai pu doucement faire. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Des étoiles filantes.
Alors, on a beaucoup parlé de Dolores. Hartland va beaucoup parler d'André Pronovost, l'écrivain de ce roman que je vous encourage à lire, qui est vraiment très... je dirais, très drôle, mais aussi très instructif sur les deux personnages, Elvis. On découvre Elvis sous une autre facette.
Oui, c'est un roman. Il y a un nom pour ce genre de roman-là, hein? Un roman didactique.
Tiens.
Oui, c'est un roman didactique, c'est-à-dire que c'est un roman...
Une approche pédagogique.
Oui, c'est un roman qui cherche à montrer des choses au lecteur.
Oui. Et qu'est-ce que vous avez voulu montrer?
C'est-à-dire, lorsque... Ce que j'ai voulu montrer, j'ai voulu montrer un peu qui était Elvis Presley. Je parle de choses qui sont peu connues sur Elvis Presley.
Comme un petit
secret. C'est-à-dire, son engouement pour la musique noire. On a dit beaucoup de choses là-dessus, mais c'était pas toujours les choses exactes qu'on a dit. Je l'ai dit, je pense que...
Vous avez replacé ça dans son contexte.
J'ai replacé ça dans son contexte.
Et vous parlez de musique noire, c'est donc l'occasion merveilleuse de faire entendre un autre gospel interprété par Elvis Presley, issu, bien sûr, de toute cette histoire noire. Hein, de ces esclaves qui travaillaient dans les champs de coton et qui chantaient des spirituals qui parfois sont devenus des gospels. La chanson a pour titre Stand By Me.
When the storms of life are raging, stand by me.
Stand by me.
When the storms of life are raging, stand by me.
Stand by me.
When the world is tossing me like a ship out on the sea, thou who rulest wind. Stand by me.
Stand by me.
When I'm growing old and feeble, stand by me.
Stand by me.
When I'm growing old and feeble, stand by me. I can, and my friends misunderstand. Thou who never lost a battle, stand by me.
Stand by me.
Thou who never lost a battle. Stand by me.
Stand by me.
Alors, Elvis Presley, Stand By Me, avec nous, André Pronovost. Alors, on va parler de vous. Les faits marquants de votre enfance, vous nous en avez parlé la semaine dernière, mais il y a un projet assez formidable que vous avez réalisé beaucoup plus tard, la traversée des Appalaches.
À pied.
À pied! Ça aussi, c'est assez singulier, non?
Oh oui, c'est assez singulier. Oui, en 78, j'étais déjà un marcheur, hein, je marchais beaucoup. Je marchais beaucoup.
Ça veut dire quoi, traverser les Appalaches?
La piste des Appalaches part un petit point d'une montagne qui s'appelle Springer Mountain en Géorgie, qui est à peu près 50 000 au nord d'Atlanta. Et ça traverse 14 États, ça se termine dans le Maine, dans l'État du Maine.
On est dans des milliers de kilomètres.
Oh, dans ce temps-là, c'est en mille, c'est encore plus long. en mille, c'était 2125 milles. Ça fait combien? 3500 kilomètres à peu près.
Et vous avez tout fait ça à pied?
Oui, j'ai fait ça en 4 mois et demi, un petit peu moins que 4 mois et demi. Je suis parti le 19 février 1978 en Géorgie. Et j'ai terminé le 2 juillet 78.
Pourquoi une telle aventure?
Pourquoi? Parce que j'étais déjà un amant de la nature. J'étais enfant et je campais dans le petit bois derrière chez mes parents.
Vous aviez même monté une tente dans
le bois. Oui, j'avais ma tente et je campais dans le bois derrière la maison. Et j'étais enfant. Mes parents n'aimaient pas bien ça, mais ils étaient inquiets un petit peu, là. Mais j'y tenais. Et j'ai toujours adoré la nature, j'ai toujours adoré la solitude. Et je pense aussi que quand je me suis mis à marcher, c'est une façon de rendre hommage à mon père. Parce que mon père était un marcheur, mon père était un routier. Plus jeune, il était un routier. C'est-à-dire ce qu'on appelle les scouts aînés. Des gens qui formaient ce qu'on appelait un clan. Et c'était des types qui avaient entre 18 et 25 ans à peu près.
Donc, l'expérience du paternel...
Oui. Mon père aimait la marche. Et mon père, pour lui, lorsqu'il parlait, il appelait pas ça la marche. À cette époque-là, il appelait ça la route, faire de la route.
Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience de 4 mois de marche dans les montagnes? Ça devait pas être facile.
Je retiens que c'était fatigant. Non, mais souvent, les gens disent « Ah, t'as dû réfléchir beaucoup. »
Oui, est-ce que c'est un lieu de ressourcement comme ceux qui font, par exemple, le chemin de Compostelle?
Mais même les gens qui font le chemin de Compostelle, la réflexion, on réfléchit tout le temps. Vous en allez en voiture, vous réfléchissez. Vous êtes le soir chez vous seul, vous réfléchissez. Je pense pas que le fait qu'on s'en va marcher et qu'on se dit « je vais réfléchir », on réfléchit quand on est prêt à réfléchir.
Mais on est en mode survie quand on se retrouve en montagne dans les Appalaches.
Oui, justement, c'est pour ça.
Il faut se préparer.
Oui, justement, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir. Parce que, la fatigue physique est tellement forte. Il y a une question de survie. Il y a une question qu'on est continuellement dérangé par le spectacle de la nature. Hein. C'est un spectacle qui défile continuellement. Les arbres, les pierres, les lacs, les ruisseaux, la température, etc. Ça fait que la réflexion, oui, il y a des moments de réflexion, mais pas plus, je dirais, que dans la vie de tous les jours.
Vous étiez seul?
Oui, j'étais seul.
Malgré le fait que vous dites qu'on ne réfléchit pas plus, est-ce que... Je ne sais trop comment l'exprimer, mais est-ce que ça nourrit notre vie intérieure?
Ah oui, c'est pas parce qu'on ne réfléchit pas que ça ne nous nourrira pas intérieurement. Oh non. Moi, je réalise que c'est quelque chose qui a marqué profondément ma vie. Mais c'est par après qu'on s'en aperçoit peut-être. On se dit ah, c'est là.
On ne voit pas les choses de la même façon par la suite?
Oui, non, probablement. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais on sent que quelque chose d'important est arrivé au moment où on est seul dans le bois, ou à peu près tout le temps seul, pendant 4 mois et demi, définitivement. Puis à ce moment-là, j'avais 36 ans. C'était une période marquante de ma vie. Ça laisse des marques.
Est-ce qu'on vit la peur aussi quand on est seul dans le bois comme cela?
Moi, il y a eu beaucoup de peur dans ma vie, moi, mais j'ai jamais eu peur de la solitude. J'ai jamais eu peur dans le bois. J'ai pas ce genre de peur-là.
Je cite un extrait de votre livre, de votre roman,
oui.
Elvis et Dolores.
Je parle de la marche là-dedans?
on parle de peur.
Ah oui, OK.
Que ferions-nous de notre temps si nous devions n'avoir plus peur? Car c'est la peur qui nous anime, c'est elle qui, une fois apprivoisée, une fois transformée en énergie créatrice, nous ouvre la porte et nous libère.
Oui.
Il y a beaucoup de vous là-dedans.
Oui, probablement. Oui, ça prend de la peur. C'est définitivement que ça prend de la peur. Et lorsqu'on fait une marche comme ça, il y en a une peur. Mais ce n'est pas une peur paralysante. Hein. C'est une peur qui motive, c'est une peur créatrice. C'est une peur qui nous fait mettre un pas devant l'autre. Hein.
Il y a bien des gens qui aimeraient probablement pouvoir lire dans l'esprit de celui qui marche pour savoir dans quel état second il se retrouve. Gordon Lightfoot, lui, l'a fait en musique. If you could read my mind.
If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells.
when you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail, and you won't read that book again because the ending's just too hard to take. Like a movie star who gets burned in a three-way script, enter number two. A movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, the story's always in. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back.
Beau choix d'André Pronovo, Gordon Lightfoot, qui rejoint un peu l'idée qu'on avait de cette nourriture de l'esprit à travers des expériences ou des aventures pour le moins singulières, comme celle de traverser les Appalaches, comme vous l'avez fait en 78.
C'est, comme je vous dis, c'était une aventure absolument... c'était une aventure unique, une aventure marquante. Et puis, mais c'est pas au moment où on l'a fait qu'on réalise que ça va nous marquer à ce point-là. Au moment où on l'a fait, c'est une aventure, c'est un bien-être. D'abord, c'est un bien-être d'être dans la nature. Hein. C'est un bien-être de marcher, c'est un bien-être de bien respirer, c'est un bien-être de ce spectacle-là de la nature nourrit énormément.
Êtes-vous un être de silence? Est-ce que le silence est important dans votre vie?
Oui, oui, j'aime beaucoup. Ah oui. Définitivement, moi, le silence me pèse pas du tout. Hein. Non. Puis pourtant, c'est pas parce que j'aime pas... je fais de la musique, hein. Et lorsqu'on fait de la musique...
C'est ce que j'allais dire, parce que la musique est très importante dans votre vie.
Oui, la musique est importante, pas juste dans la littérature. Je fais vraiment de la musique. Je suis pas un bon musicien, mais j'appartiens à un groupe de musique qui est excellent musicien, Cavalcade d'étoiles. Et puis moi, je fais juste un peu de guitare rythmique. Je suis même pas branché. Et puis, mais je chante. Et comme je vous dis, lorsqu'on fait de la musique, quand on fait du rock, faut aimer le bruit.
Vous me parlez de Cavalcade d'étoiles, donc vous me donnez le goût de vous faire entendre la chanson de Claude Valade, une adaptation de la chanson japonaise Sukiyaki Song, qui est devenue, avec la voix de Claude Valade, Sous une pluie d'étoiles.
Sous une pluie d'étoiles, je crois.
Sous une pluie d'étoiles, douce pluie d'étoiles, nous écoutions tous les deux chanter les cigales. Nous étions seuls, seuls dans la nuit, perdus sous une pluie d'étoiles. Mon cœur s'est laissé prendre là dans l'herbe tendre, où nous rêvions tous les deux sous la lune pâle qui souriait dans son palais, vêtu dans nos manteaux d'étoiles. J'ai fermé les yeux quand tu m'as embrassée. Alors j'ai senti que la terre tournait, car toutes les étoiles et la lune pâle donnaient un bal, un grand bal pour nos fiançailles, les yeux fermés. J'ai vu danser au moins 200 millions d'étoiles. Nous étions seuls, seuls dans la nuit, perdu sous une pluie d'étoiles. Ce premier amour gravé dans ma vie, et jamais mon cœur n'oubliera cette nuit où toutes les étoiles et la lune pâle donnent un bal, un grand bal avec les cigales pour deux enfants qui s'embrassaient, perdus sous une pluie d'étoiles, perdus sous une pluie d'étoiles.